Bonjour, désolé pour le léger contretemps. Donc, je suis Guillaume Blanchet, donc doctorant au sein de l'UMR Système. Je travaille avec Grégoire Vincent, Marie Gaume et Christian Duprat. Donc, mon sujet de thèse s'intitule Les systèmes agroforestiers face au changement climatique, analyse des mécanismes de résilience face aux excès climatiques par expérimentation au champ et modélisation numérique. Bon, je ne vais pas vous faire une présentation de ce qu'est le changement climatique. Je pense que vous êtes déjà tous au courant. Augmentation des températures globalisées, modification du régime des pluies. Moi, le cadre de l'étude se limite plutôt aux aléas, aux excès climatiques ou aléas climatiques, donc que ce soit un épisode de sécheresse ou un épisode de chaleur, les deux étant particulièrement dommageables aux cultures, surtout s'ils ont lieu à des stades particulièrement sensibles, comme le remplissage des grains ou la floraison. Donc, la particularité de cette thèse, c'est qu'on fait donc les deux approches, expérimentale et numérique. La question qu'on se pose, disons que souvent, l'agroforesterie est vendue déjà comme particulièrement adaptée au changement climatique, mais on manque actuellement de preuves scientifiques évidentes. Si on regarde le fonctionnement un petit peu intime d'un système agroforestier, on voit qu'en fait, c'est un mélange assez complexe d'interactions. D'un côté, on a des interactions de compétition, notamment via l'interception lumineuse par les arbres ou la compétition pour la ressource en eau ou pour les nutriments. De l'autre côté, on a aussi des interactions de facilitation, notamment, et souvent c'est cité dans la littérature, la modification des conditions microclimatiques, soit à la fois la réduction de la température ou de la demande évaporative locale. Mais au bout du compte, quel est l'équilibre entre ces deux types d'interactions? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une complémentarité au sein des systèmes agroforestiers qui permet d'influencer sur l'équilibre de ces deux interactions. Mais ensuite, est-ce que c'est spécifique au site? Est-ce que c'est spécifique à la culture intercalaire choisie, aux arbres choisis, à l'influence du type de gestion? Et quel sera l'impact du changement climatique? Donc, nous, on s'est proposé d'étudier la chose donc, au niveau de la sécheresse par une expérimentation de terrain. Elle a lieu à Restinclière. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Restinclière, c'est un site expérimental qui est vieux donc de 22 ans, 23 ans maintenant. Il est à 15 km au nord de Montpellier et on a donc un système en agroforesterie intra-parcellaire avec des noyers et une rotation de céréales d'orge d'hiver, donc blé dur, une rotation de céréales d'hiver, donc avec blé dur, orge d'hiver et pois. Et sur ce site, on a mis en place donc cette expérience avec des dispositifs pour créer artificiellement une sécheresse. Alors l'idée originale de la thèse était d'utiliser un grand dispositif donc qui couvre deux allées agroforestières intégralement sur donc 26 mètres de large et pratiquement 35 mètres de long. Ça nous fait à peu près 900 mètres carrés de surface couverte et on a les trois arbres centraux donc au niveau de l'allée, qui sont eux intégralement exclus. On a eu quelques difficultés techniques, donc on est passé à des dispositifs plus petits pour tester cette influence de la sécheresse. On les voit là en bas à droite. Et on les a donc agencés à travers la parcelle. On a donc un bloc d'exclusion. Des blocs contrôle, à la fois donc dans la modalité agroforestière et le témoin agricole. On a réalisé toute une batterie de mesures, que ce soit à la fois des variables climatiques, rayonnement, température, humidité, vent et donc quantification des pluies, et des variables biologiques, que ce soit à la fois au niveau du rendement, de la phénologie, et des paramètres plus physiologiques, comme la conductance stomatique ou les températures de culture, qui sont des bons indicateurs du stress hydrique perçu par les cultures. Donc, voici les scénarios qu'on a réussi à générer les pluies qu'on a réussi à intercepter cette année. Alors, on a eu une année un peu particulière avec un automne particulièrement sec et un printemps particulièrement pluvieux. Les trois interceptions qu'on a réalisées sont donc passées entre avril et le mois de juin pour un total de 130 mm. Donc on a regardé ce qui se passait au niveau du sol. On voit qu'on a réussi à faire des stress hydriques particulièrement significatifs, et ce, jusqu'à même des profondeurs assez importantes, donc 60 à 80 cm. Au niveau des rendements, donc on a fait des mesures. On en discutera peut-être plus à l'oral. Et donc ces données devraient ensuite nous permettre d'utiliser... on va comparer ces données avec un modèle. Donc le modèle choisi, c'est le modèle iSAVE qui est développé au sein de l'Institut, qui est donc une représentation tridimensionnelle d'un système agroforestier, à la fois donc dans les composantes aériennes et souterraines, et au pas de temps journalier pour justement représenter la variation de la distribution de la lumière au sein d'une parcelle agroforestière. Les deux types d'analyses envisagées, ce sont à la fois des simulations donc pour comparer les résultats obtenus sur le terrain et ce que le modèle représente. Donc là, par exemple, on a en haut une représentation du stock d'eau dans le sol selon différentes modalités, où on a en bas une représentation de la compétition pour l'eau, donc à la fois l'extraction par les plantes, par la culture intercalaire, par les arbres ou l'évaporation du sol. Ensuite, on utilisera aussi le modèle pour faire des simulations plus prospectives à long terme, selon différents scénarios climatiques, pour justement évaluer cette influence et la résilience de tels systèmes sur une durée plus importante. Merci pour votre attention.
Merci Guillaume. Tout d'abord, pour avoir vu avec un groupe d'agroforestiers ce suivi, c'était beaucoup de travail. Il y a du vent, hein, comme le dit Christian, il y a du vent autour de Montpellier. Et la question qui est posée dans ton exposé, j'ai l'impression de pas. Je reste sur ma faim un petit peu. Qu'est-ce que je dois dire, moi, la semaine prochaine à mes agroforestiers? Je dois leur dire qu'il y a une résilience, que c'est dû. À la conduite, à la densité, à l'exposition. Je reste sur ma faim, en fait. Je suis désolé, Guillaume, mais je reste sur ma faim.
Disons que je pense que oui, en effet, il y a une résilience au niveau de la culture. Et oui, je pense qu'elle est très clairement dépendante du site expérimental. Après, je pense que c'est aussi une question de comment est-ce qu'on perçoit la résilience. Moi, une parmi les résultats que je commence à avoir, c'est par exemple dans le cas de conditions de sécheresse, ce qu'on a observé, c'est que les écarts de rendement en contexte agroforestier, si on a une sécheresse ou non, on voit que les écarts de rendement sont potentiellement plus faibles en agroforesterie qu'en témoin agricole. Et ça, c'est une piste intéressante, puisqu'en termes de stabilité de rendement, c'est quelque chose qui peut intéresser les agriculteurs à l'avenir. Après, est-ce que cette stabilité de rendement, justement, elle est généralisable? Là, j'ai pas de réponse encore, et je pense que à ce niveau-là, les modèles seront intéressants justement pour évaluer les différents leviers en termes de densité de peuplement, gestion des itinéraires techniques. Et,
ouais. Donc deux grands paramètres, le site, la culture, et à voir si ça continue dans la durée, quoi. C'est bien ça.
Ouais.
D'accord, merci.
Et je pense aussi que c'est pareil, cette résilience ne sera pas non plus la même en fonction du stade de la
parcelle. Stade du système,
je pense que si le système agroforestier est particulièrement jeune, cette résilience sera peut-être moins marquée que si le système agroforestier est mature aussi. Nous, justement, l'expérimentation, on l'a fait actuellement en système mature, voire un degré donc, d'interaction arbre-culture particulièrement élevé.
Donc, je leur dis oui, dans quelques temps. Voilà. Merci.
Oui, rebonjour Guillaume. Bon, vous avez compris que je suis encadrant, donc je n'ai pas tout à fait un statut neutre dans la discussion. Et que moi, effectivement, je serais comme toi, enfin, je serais prudent. C'est-à-dire qu'une première année d'expérimentation ne nous donne pas d'éléments pour dire que l'agroforesterie, c'est génial pour faire face au changement climatique. Il faut quand même être un peu modeste dans la situation. Surtout que là, on avait une culture d'orge extrêmement rustique, très résiliente, pratiquement pas de différence de rendement sous les arbres et en dehors des arbres. Donc, ce n'est pas le plus simple. Et on a eu un printemps, tu devrais vraiment le dire, pourri. On a eu 800 mm de pluie entre janvier et juin. Et ça s'est terminé par 100 mm de pluie début juin, un jour à 100 mm. Donc, on a eu une année absolument catastrophique pour ce type d'approche. Moi, ce qui m'intéresserait, Guillaume, c'est qu'on réfléchisse à comment on va avoir une approche fréquentielle, c'est-à-dire les accidents climatiques auxquels on s'intéresse, auxquels s'intéressent les agriculteurs. On devrait pouvoir les qualifier par des fréquences. On aura une année sur 5, ce genre de choses, une année sur 3, ce genre de trucs, et tous les 20 ans, un truc comme ça. Est-ce que tu penses, est-ce qu'on va y arriver avec le modèle? C'est un peu ça la question qui se pose. Est-ce qu'avec 2 années d'expérimentation, on va suffisamment valider le modèle pour rendre cette démarche cohérente? Voilà, c'est un peu l'inquiétude que j'ai et qu'on peut partager ensemble.
Non. Parce que bon, le modèle est en cours de calibration, donc je pense que déjà il faut évaluer la capacité du modèle à reproduire ce que nous on va observer sur le terrain pour des situations données et pour des stress hydriques donnés. Ça c'est une première chose et je pense que cette étape c'est pas la moindre. Ensuite pour l'approche fréquentielle, je pense qu'il va falloir s'appuyer sur des scénarios. Après les scénarios sont aussi issus de modèles, donc je pense qu'il y a deux visions. Soit on peut justement essayer de voir quelles seraient donc selon les différents scénarios climatiques des perspectives en utilisant le modèle, ou alors on pourrait aussi utiliser le modèle en disant, moi, je pense que ce stade-là, il est particulièrement critique au niveau de la culture, si on a une sécheresse à ce moment-là. Et essayons de voir, justement, utiliser le modèle pour voir à partir quels sont les seuils, au bout du compte, à partir desquels on aura, justement, des pertes de rendement particulièrement dommageables. Et je pense que ça, c'est deux visions qui sont un petit peu différentes entre les scénarios climatiques et l'utilisation du modèle pour voir quels sont des seuils à partir desquels on aura donc des pertes de rendement particulièrement importantes en comparaison dans les témoins donc de moniculture ou d'agroforesterie.
Dans les réponses qu'on propose aujourd'hui aux agriculteurs en France, en Europe, pour faire face au changement climatique, on ne met pas l'agroforesterie au premier plan. L'essentiel des travaux de la profession, c'est on change de variété, on change de date de semis, on adapte les cultures d'une autre manière. Donc, est-ce qu'on va être capable de répondre à ce genre de questions, nous? C'est une question que je me pose, donc on se la pose tous ensemble. Hein, voilà. Ouais. Je vous précise le contexte. Nous avons un agriculteur qui fait ses cultures et qui, pour l'instant, ne change rien par rapport au changement climatique pour ses cultures. Donc là, on a travaillé avec l'orge Claudio, l'orge habituelle, semée comme d'habitude. Et voilà, c'est la grande difficulté.
Les leviers sont énormes. Enfin, je veux dire, en termes de quantité, justement, si on joue sur tous les itinéraires techniques, les possibilités d'agencement et tout, c'est dans ça que je pense que réside l'intérêt d'utiliser un modèle. Après, il faut être toujours, mesurer dans la façon dont on fait parler les modèles. Mais je pense que d'un point de vue relatif, on aura toujours des choses intéressantes à montrer qui peuvent permettre ensuite d'affiner des axes de recherche qui semblent particulièrement intéressants. Mais je pense qu'à l'issue de la thèse, on n'aura pas la réponse. Ça, c'est...
Le public, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. Bonjour Stéphane Sachet, doctorant aussi dans le cadre de l'appel à projet de la Fondation. Simplement une question, est-ce que l'agriculteur, lui, qui est depuis 20 ans sur ses parcelles, qu'est-ce qu'il dit de l'évolution de ses rendements entre le témoin agroforestier et le témoin agricole?
Alors, je n'ai pas encore regardé les rendements. Alors, témoin forestier, témoin agricole, donc c'est-à-dire agroforestier et agricole. Mais je ne connais pas exactement la position de l'agriculteur à ce niveau-là. Je sais qu'il se plaint pas mal de la diminution de ses rendements. Après, on est dans le cadre aussi un peu particulier au domaine de Restinclière, où je veux dire, la gestion à la fois donc, de la partie boisée et de la partie culturelle est vraiment dissociée. Donc l'agriculteur, lui, réfléchit juste en termes de culture intercalaire. À ce niveau-là, c'est sûr qu'il observe, je pense, une diminution de ses rendements. Après, si on prend en compte justement cette partie boisée, peut-être qu'il aurait une perspective différente, quoi. Donc, le contexte actuel au niveau du domaine de Restinclière, c'est peut-être pas le meilleur. Disons qu'on aura juste une vision très partielle de la problématique à travers l'agriculteur. Après, je sais pas, Christian, tu connais peut-être mieux. Après c'est ça. Ouais. Et le retour, c'est ça, est faible. 20 ans, c'est peu et avec nous. Ouais.
Alors, une autre question ici.
Bonjour, Étienne Berger, l'association Bocage Pays Branché. Je suis interrogatif sur un point. Au niveau du dispositif, vous avez utilisé donc des systèmes de couverture pour créer l'excès, pour créer la condition en parcelle test. Et tu mesures, et tu as beaucoup parlé de deux critères notamment, le rayonnement et l'évapotranspiration du sol. Dans quelle mesure ces couvertures impactent ces deux mesures? Est-ce que vous avez pondéré ces résultats par rapport à ça? Puisque, a priori, je ne vois pas bien. Est-ce que ces bâches sont translucides, ouais, épaisses? Donc, il y a forcément une condition de rayonnement différente. Et l'évapotranspiration du sol également, de fait. Donc, est-ce que ça pondère effectivement tes résultats? Est-ce que c'est peu significatif et du coup, ça n'impacte pas tes premiers résultats? Voilà, alors, ma question.
Là, c'est une bonne question et c'est quelque chose que, en effet, je n'ai pas expliqué pendant la présentation. Là, j'ai d'autres photos donc du dispositif anti-pluie. En fait, l'idée, c'est que ces bâches ne sont déployées qu'avant un événement pluvieux. Ce qui fait qu'on estime, donc on a mis des capteurs, mais l'impact du dispositif sur la culture est minimisé de la sorte. Les bâches sont aussi translucides. Et donc les données avec capteurs nous ont permis de vérifier qu'il n'y avait pas d'impact au niveau du rayonnement, en tout cas de la présence du dispositif. Et même sur la question de la bâche, par exemple, il y avait donc là, je présente un autre petit dispositif là, où vu que c'était un prototype, on n'a pas réussi à avoir la bâche translucide. C'était une bâche donc bleue opaque. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que en fait, vu qu'on déploie les dispositifs que dans le cadre d'événements pluvieux, on a déjà un rayonnement qui est extrêmement limité. Et poser même une bâche occultante, au final, c'est minime, comme influence en tout cas.
Oui, bonjour, Christophe Pinard du ministère de l'Agriculture. J'ai une remarque et une question. Une remarque peut-être pour moduler, je n'oserais pas contredire les propos de Christian tout à l'heure, mais peut-être un peu plus optimiste. Hein, simplement, j'ai la chance d'appartenir à un bureau qui s'appelle le Bureau du changement climatique et de la biodiversité. Alors, je coordonne le plan de développement de l'agroforesterie pour le ministère de l'Agriculture, mais j'ai deux collègues que je vois tous les matins qui sont des négociateurs au niveau de internationales et qui me disent très régulièrement que l'agroforesterie fait partie des préoccupations majeures, en tout cas dans leur milieu, dès lors qu'on évoque la question du changement climatique. Donc ils seront à la COP24 en Pologne, en portant haut et fort les messages pour promouvoir l'agroforesterie. Mais la question qui est derrière et qui est un peu liée, on organise le 18 décembre prochain au ministère, et main dans la main avec le RMT Agroforesterie, une journée nationale de l'agroforesterie, ça peut donc tous vous concerner potentiellement, qui portera sur le thème agroforesterie et changement climatique. On veut focaliser là-dessus. 18 décembre, ce n'est pas le hasard. On sera 4 jours après la fin de la COP24 en Pologne. Donc mes collègues reviendront avec des infos toutes fraîches sur ce qu'on aura pu dire, entre autres de l'agroforesterie, lors de la COP24. Et ma question, c'est celle-là, très simplement, je ne veux pas être trop long. Est-ce qu'il y a d'autres recherches que les vôtres, passionnantes, hein, certes, mais est-ce qu'il y a d'autres recherches, par exemple, sur des questions de fond qu'on peut être en droit de se poser quand on commence à mettre en place un système agroforestier, notamment le choix des espèces. Globalement, est-ce que vous connaissez d'autres recherches en cours ou à venir sur le thème agroforesterie et changement climatique?
Oui, ça dépend à quel niveau. Enfin, je veux dire, si c'est sur le choix des espèces, des variétés. Je dois te dire que je n'ai pas encore regardé justement ce genre d'aspect-là. Et à ma connaissance, non. Peut-être que je me trompe. Après, je sais que, enfin, disons que au niveau de la recherche de la résilience des systèmes agroforestiers vis-à-vis du changement climatique, il y a eu beaucoup de recherches sur l'impact de l'introduction de l'arbre au niveau microclimatique, au niveau du rendement, mais il n'y a jamais eu de synthèse où en fait on fait des analyses, par exemple, de gradient climatique pour voir l'influence de la pluie ou ce genre de choses-là. Donc, en fait, il n'y a pas actuellement, c'est toujours des recherches, je trouve, très partielles vis-à-vis de l'impact du changement climatique. Donc, à ma connaissance, après.
Et donc, ouais, je voulais juste vous dire que demain, sur Oasis, justement, vous verrez la manière qu'on a eue de réfléchir à cet aspect changement climatique dans le cadre d'un système laitier. Et bon, nous, c'est vrai qu'on avait choisi aussi d'implanter des espèces qui soient adaptées à des conditions plus méridionales que ce qui se plante d'habitude en Poitou-Charentes.
Juste pour répondre, il me semble avoir rencontré au dernier congrès à la bergerie de Villarceau, des gens qui, par exemple, faisaient la sélection des espèces pour les haies, pour les bocages en Bretagne, et qui donc, effectivement, on était à cette question de savoir qu'est-ce qu'il fallait planter exactement, voire même de fournir des espèces, justement, d'échanger entre les régions pour maintenir l'enrichissement génétique des plantes, et ne pas obtenir d'appauvrissement. Qui était très au fait de ce type de questions. Moins sur les arbres, plus sur les haies, mais en tout cas, il y a des gens qui s'en occupent.
Encore le temps pour une question.
Oui, bonjour, Harold Rétoré. Je suis le directeur d'un EPAGE, en fait, un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux. Ces syndicats mixtes de bassin versant, en fait, qui ont été réorganisés par la réforme territoriale pour porter la compétence GEMAPI. Donc milieu aquatique, prévention des inondations, mais aussi tout le grand cycle de l'eau avec les approches qualité de l'eau, les problématiques agroécologiques qu'on essaye de développer sur les bassins où il y a des problématiques nitrates, phosphore, etc. Moi, c'est plus un témoignage en tant que gestionnaire, c'est qu'on essaye de développer dans nos programmes d'action sur les bassins versants, effectivement, des pratiques alternatives agroécologiques en termes de conduite de système, mais aussi avec des infrastructures écologiques. On a parlé de la haie, on a parlé effectivement des linéaires entre cultures, ça peut être aussi des restaurations de zones humides, de fonctionnalités qui sont à l'échelle des versants agricoles. Et donc on est très à l'écoute effectivement des développements de recherche, puisqu'il faut convaincre. Il faut des exemples qui fonctionnent, il faut des chiffres qui soient aussi socio-économiquement viables et intéressants pour que y ait des modifications sur le terrain. Donc moi je suis très intéressé et je suis désolé d'être arrivé un petit peu en retard, mais je vais essayer de suivre le maximum de choses aujourd'hui et demain. Et on va lancer en 2019, je pense peut-être sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt, justement, un AMI, avec un budget d'à peu près 55 000 euros, justement, une réflexion qui nous permette à l'échelle du bassin versant de la Boutonne, voilà, qui est à la fois en Deux-Sèvres, en Charente-Maritime, voilà, une réflexion qui mélange un petit peu la géographie physique, la partie agronomique, la partie justement agro-pédologique, etc., pour essayer de stimuler, ou en tout cas de trouver des sites où on pourrait implanter peut-être des systèmes différents, plus résilients, plus durables, puisqu'on a aussi cette idée d'aller vers l'atténuation du changement climatique à l'échelle locale. Donc, c'est pour faire un lien entre recherche et action ou recherche et application terrain. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est bien que ces journées soient organisées, qu'il y ait une journée nationale, enfin que ça se développe. Hein. Et juste pour finir, on a, nous, travaillé avec des coopératives qui commencent à s'intéresser à la conservation des sols ou à l'agroforesterie. Et on a deux coopératives qui travaillent sur les couverts végétaux. Et par l'association Agro, que vous connaissez peut-être, qui est une association qui justement fait la promotion de l'agroforesterie. Donc on voit que même les coopératives commencent à rentrer un peu dans le sujet. Voilà, merci.
Alors peut-être on a encore le temps pour une question. Où ça ? Une question ? Sinon, moi j'avais une... Ah, Thierry. Moi, j'avais une toute petite question. C'était, on voit la difficulté quelquefois de travailler donc avec l'agriculteur de Restinclière. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi de travailler avec un réseau de parcelles, même restreint, avec des agriculteurs un petit peu pionniers, justement, dans leur adaptation de leur système vis-à-vis de ces questions de changement climatique ? Parce que là, maintenant, on commence à avoir quand même un beau réseau de parcelles en France avec des arbres qui ont une dizaine d'années. Donc, on commence à avoir des interactions intéressantes, quoi. Mais je passe tout de suite, comme ça tu pourras répondre aux deux questions.
Bah oui, en plus, elle est un peu dans le même fil. Là, vous avez dit que Restinclière, c'est un système qui aujourd'hui est mature sur les arbres. C'est des arbres qui ont une vingtaine d'années. Donc ça veut dire qu'il faut attendre 20 ans pour avoir des arbres comme ça. Et 20 ans, c'est la moitié de la carrière d'un agriculteur. Et les 20 premières années, comment ça se passe ? Est-ce que la pousse des arbres influence aussi ce système-là ? Est-ce qu'il y a plus... S'il faut attendre 20 ans pour que le système soit efficace, pour avoir des effets d'atténuation de la sécheresse, ça va être un petit peu long. Et du coup, est-ce que le modèle ASF peut permettre d'anticiper aussi, s'il n'y a pas d'expérimentation de terrain, les différents stades d'évolution de l'arbre ?
Alors, pour répondre à la première question... Bien sûr, je pense que ce serait aussi une approche pertinente d'utiliser un réseau d'agriculteurs, mais je pense que la question posée ne serait pas exactement la même. Disons que à travers un réseau de parcelles, ça me semble difficile, par exemple, de travailler avec des dispositifs. En fait, on utiliserait plus, dans ce cas-là, en fait, un gradient climatique avec différentes conditions pédologiques. Et du coup, disons qu'on aborderait la résilience sur... on aurait des systèmes donc de plus ou moins âgés, et donc on aurait une compréhension moins fine des mécanismes qui sont à l'œuvre, mais on aurait quelque chose qui serait descriptif. Mais ça serait... Ouais. Disons qu'on serait plus dans la description de la résilience. Là, ce qu'on essaie de faire, c'est sur un même site, essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont en œuvre, quelle sera la réponse de la culture vis-à-vis d'un épisode de sécheresse. C'est pareil, on parle du changement climatique, mais là, ce qu'on teste, c'est seulement la réponse à la sécheresse. Le changement climatique, c'est beaucoup plus complexe, c'est aussi une augmentation des concentrations en CO2, c'est des influences sur les températures, donc il faudrait prendre en fait tous ces effets dans la durée, en fait. Donc la démarche serait pertinente et complémentaire. Mais je pense que la question posée n'est pas exactement la même non plus. Ensuite, pour la question sur les phases d'installation, quant au modèle, le modèle, voilà, il faut il est sur le point d'être calibré. Et je pense qu'on attend tous justement de voir comment est-ce qu'on va le faire parler. Et je pense que voilà, je sais pas. Christian sûrement a quelque chose à rajouter.
Pour désespérer Thierry, oui, les tout petits arbres, c'est de l'homéopathie agroforestière. Quand on a des tout petits arbres dans des parcelles, ils ont un effet tout petit. Et effectivement, il faut pas mal d'années avant que les arbres aient un gros impact sur les cycles de nutriments, sur le microclimat, sur toutes ces choses-là. Et le modèle en question nous permet de bien le voir. On a quelque chose où pendant 10 ans, les courbes sont à zéro pratiquement, puis ça monte très fortement ensuite. Donc oui, tous les systèmes agroforestiers à peu d'arbres à l'hectare, à 100 arbres à l'hectare, il leur faut 20 ans pour que les arbres aient une vraie influence sur tous les éléments, les cycles d'éléments, sur le microclimat, etc. Mais c'est pas en soi, bon, c'est compliqué donc de le dire, de l'expliquer, mais il faut l'accepter. Et il faut que les politiques publiques prennent en compte le fait que l'effet positif de l'agroforesterie, il sera quand les arbres sont installés, quand on les renouvelle régulièrement, etc. Et puis juste, il y avait une question sur d'autres recherches sur le même sujet. Ben, on est un peu tout seul, il faut quand même le dire. Guillaume, on a du mal à trouver des gens qui travaillent sur l'influence réelle dans des vrais systèmes agroforestiers, sur les cultures. Alors, il y a eu hier à 17h la clôture d'un appel à projet de l'Union européenne qui était justement sur la maîtrise du microclimat avec les techniques agroécologiques. On a un projet en tout cas déposé en France qui s'appelle ClimSafe, qui parle du climat modifié par les systèmes agroforestiers. Sera-t-il retenu? On n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'on est un peu tout seul.
Et moi, juste pour rassurer, l'homéopathie, ça marche vraiment. Hein. Et dès la première année, forcément 20 ans pour ce type de résultats et de recherche. Mais dès la première année, un système agroforestier, déjà, il y a le sourire de l'agriculteur qui est content de l'avoir fait. Et il y a des systèmes agroforestiers qui marchent très très fort dès la première année. Je pense au parcours volaille, par exemple. Donc, ça marche, l'homéopathie, vraiment.
Et nous, on aura l'occasion aussi cet après-midi de présenter les résultats du projet Parasol qui était financé par l'ADEME et qui portait sur justement l'impact de l'agroforesterie, notamment par rapport au changement climatique, mais en élevage, donc autour des vieilles parcelles du réseau IRSTEA et de l'INRA. Bon, bah écoutez, on va faire une pause donc, et on va recommencer donc à 11h30 précise. Voilà.